Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, livre troisième. Où mènent les mauvais chemins? Le lendemain, à 6 heures, deux voitures menées en poste et appelées par le peuple, dans sa langue énergique, des paniers à salade, sortirent de la force pour se diriger sur la conciergerie au palais de justice. Il est peu de flâneurs qui n'aient rencontré cette geôle roulante. Mais quoique la plupart des livres soient écrits uniquement pour les Parisiens, les étrangers seront sans doute satisfaits de trouver ici la description de ce formidable appareil de notre justice criminelle. Qui sait, les polices russes, allemandes ou autrichiennes, les magistratures des pays privés de paniers à salade en profiteront peut-être. Et dans plusieurs contrées étrangères, l'imitation de ce mode de transport sera certainement un bienfait pour les prisonniers. Cette ignoble voiture à caisse jaune, montée sur deux roues et doublée en tôle, est divisée en deux compartiments. Par devant, il se trouve une banquette garnie de cuir sur laquelle se relève un tablier. C'est la partie libre du panier à salade. Elle est destinée à un huissier ou à un gendarme. Une forte grille en fer treillissé sépare, dans toute la hauteur et la largeur de la voiture, cette espèce de cabriolet du second compartiment, où sont deux bancs de bois placés, comme dans les omnibus, de chaque côté de la caisse. S'asseyent les prisonniers. Ils y sont introduits au moyen d'un marchepied et par une portière sans jour qui ouvre au fond de la voiture. Ce surnom de panier à salade vient de ce que primitivement, la voiture étant à claire-voie de tous côtés, les prisonniers devaient y être secoués absolument comme des salades. Pour plus de sécurité, dans la prévision d'un accident, cette voiture est suivie d'un gendarme à cheval, surtout quand elle emmène des condamnés à mort pour subir leur supplice. Ainsi, l'évasion est impossible. La voiture, doublée de tôle, ne se laisse mordre par aucun outil. Les prisonniers, scrupuleusement fouillés au moment de leur arrestation, ou de leur écrou, peuvent tout au plus posséder les ressorts de montre propres à scier des barreaux, mais impuissants sur des surfaces planes. Aussi, le panier à salade, perfectionné par le génie de la police de Paris, a-t-il fini par servir de modèle pour la voiture cellulaire qui transporte les forçats au bagne et par laquelle on a remplacé l'effroyable charrette, la honte des civilisations précédentes. Quoique Manon Lescaut l'ait illustré. On expédie d'abord par le panier à salade les prévenus des différentes prisons de la capitale au palais, pour y être interrogés par le magistrat instructeur. En argot de prison, cela s'appelle aller à l'instruction. On amène ensuite les accusés de ces mêmes prisons au palais pour y être jugés, quand il ne s'agit que de la justice correctionnelle. Puis quand il est question, en termes de palais, du grand criminel, on les transvase des maisons d'arrêt à la conciergerie, qui est la maison de justice du département de la Seine. Enfin, les condamnés à mort sont menés dans un panier à salade de Bicêtre à la barrière Saint-Jacques, place destinée aux exécutions capitales depuis la Révolution de juillet. Grâce à la philanthropie, ces malheureux ne subissent plus le supplice de l'ancien trajet, qui se faisait auparavant de la conciergerie à la place de Grève, dans une charrette absolument semblable à celle dont se servent les marchands de bois. Cette charrette n'est plus affectée aujourd'hui qu'au transport de l'échafaud. Sans cette explication, le mot d'un illustre condamné à son complice, c'est maintenant l'affaire des chevaux, en montant dans le panier à salade, ne se comprendrait pas. Il est impossible d'aller au dernier supplice plus commodément qu'on y va maintenant à Paris. En ce moment, les deux paniers à salade sortis de si grand matin servaient exceptionnellement à transférer deux prévenus de la maison d'arrêt de la Force à la conciergerie, et chacun de ces prévenus occupait à lui seul un panier à salade. Les 9/10 des lecteurs et les 9/10 du dernier dixième ignorent certainement les différences considérables qui séparent ces mots. Inculpés, prévenus, accusés, détenus, maison d'arrêt, maison de justice ou maison de détention. Aussi tous seront-ils vraisemblablement étonnés d'apprendre ici qu'il s'agit de tout notre droit criminel, dont l'explication succincte et claire leur sera donnée tout à l'heure, autant pour leur instruction que pour la clarté du dénouement de cette histoire. D'ailleurs, quand on saura que le premier panier à salade contenait Jacques Collin et le second Lucien, qui venait en quelques heures de passer du fait des grandeurs sociales au fond d'un cachot, la curiosité sera suffisamment excitée déjà. L'attitude des deux complices était caractéristique. Lucien de Rubempré se cachait pour éviter les regards que les passants jetaient sur le grillage de la sinistre et fatale voiture, dans le trajet qu'elle faisait par la rue Saint-Antoine pour gagner les quais par la rue du Martroi et par l'arcade Saint-Jean, sous laquelle on passait alors pour traverser la place de l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, cette arcade forme la porte d'entrée de l'hôtel du préfet de la Seine dans le vaste palais municipal. L'audacieux forçat collait sa face sur la grille de sa voiture, entre l'huissier et le gendarme, qui, sûr de leur panier à salade, causaient ensemble. Les journées de juillet 1830 et leur formidable tempête ont tellement couvert de leur bruit les événements antérieurs, l'intérêt politique absorba tellement la France pendant les 6 derniers mois de cette année, que personne aujourd'hui ne se souvient plus, ou se souvient à peine, quelque étrange qu'elle s'est été, de ces catastrophes privées, judiciaires, financières, qui forment la consommation annuelle de la curiosité parisienne, et qui ne manquèrent pas dans les 6 premiers mois de cette année. Il est donc nécessaire de faire observer combien Paris fut alors momentanément agité par la nouvelle de l'arrestation d'un prêtre espagnol trouvé chez une courtisane et par celle de l'élégant Lucien de Rubempré, le futur de Mademoiselle de Grandlieu, pris sur la grande route d'Italie, au petit village de Grèze, inculpés tous les deux d'un assassinat dont le fruit allait à 7 millions. Car le scandale de ce procès surmonta cependant quelques jours l'intérêt prodigieux des dernières élections faites sous Charles X. D'abord, ce procès criminel était en partie dû à une plainte du baron de Nucingen. Puis l'arrestation de Lucien, à la veille de devenir le secrétaire intime du Premier ministre, remuait la société parisienne la plus élevée. Dans tous les salons de Paris, plus d'un jeune homme se souvint d'avoir envié Lucien quand il avait été distingué par la belle duchesse de Maufrigneuse. Et toutes les femmes savaient qu'il intéressait alors Madame de Sérisy, femme d'un des premiers personnages de l'État. Enfin, la beauté de la victime jouissait d'une célébrité singulière dans les différents mondes qui composent Paris. Dans le grand monde, dans le monde financier, dans le monde des courtisanes, dans le monde des jeunes gens, dans le monde littéraire. Depuis 2 jours, tout Paris parlait donc de ces 2 arrestations. Le juge d'instruction à qui l'affaire était dévolue, M. Camusot, y vit un titre à son avancement, et pour procéder avec toute la vivacité possible, il avait ordonné de transférer les 2 inculpés de la force à la conciergerie dès que Lucien de Rubempré serait arrivé de Fontainebleau. L'abbé Carlos et Lucien, n'ayant passé le premier que 12 heures et le second qu'une demi-nuit à la force, il est inutile de dépeindre cette prison qu'on a depuis entièrement modifiée. Et quant aux particularités de l'écrou, ce serait une répétition de ce qui devait se passer à la conciergerie. Mais avant d'entrer dans le drame terrible d'une instruction criminelle, il est indispensable, comme il vient d'être dit, d'expliquer la marche normale d'un procès de ce genre. D'abord, ces diverses phases en seront mieux comprises, et en France et à l'étranger. Puis ceux qui l'ignorent apprécieront l'économie du droit criminel, telle que l'ont conçu les législateurs sous Napoléon. C'est d'autant plus important que cette grande et belle œuvre est en ce moment menacée de destruction par le système dit pénitentiaire. Un crime se commet. S'il y a flagrance, les inculpés sont emmenés au corps de garde voisin et mis dans ce cabanon nommé par le peuple violon, sans doute parce qu'on y fait de la musique. On y crie ou l'on y pleure. De là, les inculpés sont traduits par devant le commissaire de police, qui procède à un commencement d'instruction et qui peut les relaxer s'il y a erreur. Enfin, les inculpés sont transportés au dépôt de la préfecture, où la police les tient à la disposition du procureur du roi et du juge d'instruction, qui, selon la gravité des cas, avertit plus ou moins promptement, arrive et interroge les gens en état d'arrestation provisoire. Selon la nature des présomptions, le juge d'instruction lance un mandat de dépôt et fait écrouer les inculpés à la maison d'arrêt. Paris a 3 maisons d'arrêt, Sainte-Pélagie, La Force et les Madelonnettes. Remarquez cette expression d'inculpé. Notre code a créé 3 distinctions essentielles dans la criminalité. L'inculpation, la prévention, l'accusation. Tant que le mandat d'arrêt n'est pas signé, les auteurs présumés d'un crime ou d'un délit grave sont des inculpés. Sous le poids du mandat d'arrêt, ils deviennent des prévenus. Ils restent purement et simplement prévenus tant que l'instruction se poursuit. L'instruction terminée, une fois que le tribunal a jugé que les prévenus devaient être déférés à la cour, ils passent à l'état d'accusés. Lorsque la cour royale a jugé, sur la requête du procureur général, qu'il y a charge suffisante pour les traduire en cour d'assises. Ainsi, les gens soupçonnés d'un crime passent par 3 états différents, par 3 cribles, avant de comparaître devant ce qu'on appelle la justice du pays. Dans le premier état, les innocents possèdent une foule de moyens de justification. Le public, la garde, la police. Dans le second état, ils sont devant un magistrat, confrontés aux témoins, jugés par une chambre de tribunal à Paris ou par tout un tribunal dans les départements. Dans le troisième, ils comparaissent devant 12 conseillers et l'arrêt de renvoi par devant la cour d'assises peut, en cas d'erreur ou pour défaut de forme, être déféré par les accusés à la cour de cassation. Le jury ne sait pas tout ce qu'il soufflette d'autorité populaire, administrative et judiciaire, quand il acquitte des accusés. Aussi, selon nous, à Paris, nous ne parlons pas des autres ressorts. Il nous paraît bien difficile qu'un innocent s'asseye jamais sur les bancs de la cour d'assises. Le détenu, c'est le condamné. Notre droit criminel a créé des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des maisons de détention. Différences juridiques qui correspondent à celles de prévenus, d'accusés, de condamnés. La prison comporte une peine légère, c'est la punition d'un délit minime. Mais la détention est une peine afflictive et dans certains cas infamante. Ce qui propose aujourd'hui le système pénitentiaire bouleverse donc un admirable droit criminel où les peines étaient supérieurement graduées et ils arriveront à punir les picadilles presque aussi sévèrement que les plus grands crimes. On pourra d'ailleurs comparer dans les scènes de la vie politique les différences curieuses qui existèrent entre le droit criminel du code de Brumaire en 4 et celui du code Napoléon qui l'a remplacé. Dans la plupart des grands procès, comme dans celui-ci, les inculpés deviennent aussitôt des prévenus. La justice lance immédiatement le mandat de dépôt ou d'arrestation. En effet, dans le plus grand nombre des cas, les inculpés ou sont en fuite ou doivent être surpris instantanément. Aussi, comme on l'a vu, la police, qui n'est là que le moyen d'exécution, et la justice, était-elle venue avec la rapidité de la foudre au domicile d'Esther? Quand même, il n'y aurait pas eu des motifs de vengeance soufflés par Corentin à l'oreille de la police judiciaire. Il y avait dénonciation d'un vol de 750 000 francs par le baron de Nucingen. Au moment où la première voiture, qui contenait Jacques Collin, atteignit à l'arcade Saint-Jean, passage étroit et sombre, un embarras força le postillon d'arrêter sous l'arcade. Les yeux du prévenu brillaient à travers la grille comme 2 escarboucles. Malgré le masque de moribond qui la veille avait fait croire au directeur de la force à la nécessité d'appeler le médecin. Libres en ce moment, car ni le gendarme, ni l'huissier ne se retournaient pour voir leurs pratiques. Ses yeux flamboyants parlaient un langage si clair qu'un juge d'instruction habile, comme M. Popineau par exemple, aurait reconnu le forçat dans le sacrilège. En effet, Jacques Collin, depuis que le panier à salade avait franchi la porte de la force, examinait tout sur son passage. Malgré la rapidité de la course, il embrassait d'un regard avide et complet les maisons, depuis leur dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée. Il voyait tous les passants et il les analysait. Dieu ne saisit pas mieux sa création dans ses moyens et dans sa fin que cet homme ne saisissait les moindres différences dans la masse des choses et des passants. Armé d'une espérance, comme le dernier des Horaces le fut de son glaive, il attendait du secours. À tout autre qu'à ce Machiavel du bagne, cet espoir eût paru tellement impossible à réaliser qu'il se serait laissé machinalement aller, ce que font tous les coupables. Aucun d'eux ne songe à résister dans la situation où la justice et la police de Paris plongent les prévenus, surtout ceux mis au secret, comme l'étaient Lucien et Jacques Collin. On ne se figure pas l'isolement soudain où se trouve un prévenu. Les gendarmes qui l'arrêtent, le commissaire qui l'interroge, ceux qui le mènent en prison, les gardiens qui le conduisent dans ce qu'on appelle littérairement un cachot, ceux qui le prennent sous les bras pour le faire monter dans un panier à salade, tous les êtres qui, dès son arrestation, l'entourent, sont muets, ou tiennent registre de ses paroles pour les répéter soit à la police, soit au juge. Cette absolue séparation, si simplement obtenue entre le monde entier et le prévenu, cause un renversement complet dans ses facultés, une prodigieuse prostration de l'esprit. Surtout quand ce n'est pas un homme familiarisé par ses antécédents avec l'action de la justice. Le duel entre le coupable et le juge est donc d'autant plus terrible que la justice a pour auxiliaire le silence des murailles et l'incorruptible indifférence de ses agents. Néanmoins, Jacques Collin ou Carlos Herrera, il est nécessaire de lui donner l'un ou l'autre de ces noms selon les nécessités de la situation, connaissait de longue main les façons de la police, de la geôle et de la justice. Aussi, ce colosse de ruse et de corruption avait-il employé les forces de son esprit et les ressources de sa mimique à bien jouer la surprise, la niaiserie d'un innocent, tout en donnant au magistrat la comédie de son agonie. Comme on l'a vu, Asie, cette savante locuste, lui avait fait prendre un poison mitigé, de manière à produire le semblant d'une maladie mortelle. L'action de M. Camusot, celle du commissaire de police, l'interrogante activité du procureur du roi, avait donc été annulée par l'action, par l'activité d'une apoplexie foudroyante. « Il s'est empoisonné !» s'était écrié M. Camusot, épouvanté par les souffrances du soi-disant prêtre, quand on l'avait descendu de la mansarde en proie à d'horribles convulsions. Quatre agents avaient eu beaucoup de peine à convoyer l'abbé Carlos par les escaliers jusqu'à la chambre d'Esther, où tous les magistrats et les gendarmes étaient réunis. « C'est ce qu'il avait de mieux à faire, s'il est coupable, » avait répondu le procureur du roi. « Le croyez-vous donc malade ?» avait demandé le commissaire de police. La police doute toujours de tout. Ces trois magistrats s'étaient alors parlé, comme on le suppose, à l'oreille. Mais Jacques Collin avait deviné sur leur physionomie le sujet de leur confidence, et il en avait profité pour rendre impossible, ou tout à fait insignifiant, l'interrogatoire sommaire qui se fait au moment d'une arrestation. Il avait balbutié des phrases où l'espagnol et le français se combinaient de manière à présenter des non-sens. À la force, cette comédie avait obtenu d'abord un succès d'autant plus complet que le chef de la sûreté, abréviation de ces mots, chef de la brigade de police de sûreté, Bibi Lupin, qui avait jadis arrêté Jacques Collin dans la pension bourgeoise de Madame Vauquet, était en mission dans les départements, et suppléé par un agent désigné comme le successeur de Bibi Lupin, et à qui le forçat était inconnu. Bibi Lupin, ancien forçat, compagnon de Jacques Collin au bagne, était son ennemi personnel. Cette inimitié prenait sa source dans des querelles où Jacques Collin avait toujours eu le dessus, et dans la suprématie exercée par Trompe-la-Mort sur ses compagnons. Enfin, Jacques Collin avait été pendant 10 ans la providence des forçats libérés, leur chef, leur conseil à Paris, leur dépositaire, et par conséquent, l'antagoniste de Bibi Lupin. Donc, quoique mis au secret, il comptait sur le dévouement intelligent et absolu d'Asie, son bras droit, et peut-être sur Paccard, son bras gauche, qu'il se flattait de retrouver à ses ordres, une fois que le soigneux lieutenant aurait mis à l'abri les 750 000 francs volés. Telle était la raison de l'attente surhumaine avec laquelle il embrassait tout sur sa route. Chose étrange, cet espoir allait être pleinement satisfait. Les deux puissantes murailles de l'arcade Saint-Jean étaient revêtues à 6 pieds de hauteur d'un manteau de boue permanent produit par les éclaboussures du ruisseau, car les passants n'avaient alors, pour se garantir du passage incessant des voitures et de ce qu'on appelait les coups de pied de charrette, que des bornes depuis longtemps éventrées par les moyeux des roues. Plus d'une fois, la charrette d'un carrier avait broyé là des gens inattentifs. Tel fut Paris pendant longtemps et dans beaucoup de quartiers. Ce détail peut faire comprendre l'étroitesse de l'arcade Saint-Jean et combien il était facile de l'encombrer. Qu'un fiacre vint à y entrer par la place de Grève, pendant qu'une marchande dite des Quatre Saisons y poussait sa petite voiture à bras pleine de pommes par la rue du Martroi. La troisième voiture qui survenait occasionnait alors un embarras. Les passants se sauvaient effrayés en cherchant une borne qui pût les préserver de l'atteinte des anciens moyeux, dont la longueur était si démesurée qu'il a fallu des lois pour les rogner. Quand le panier à salade arriva, l'arcade était barrée par une de ces marchandes des Quatre Saisons, dont le type est d'autant plus curieux qu'il en existe encore des exemplaires dans Paris, malgré le nombre croissant des boutiques de fruitières. C'était si bien la marchande des rues qu'un sergent de ville, si l'institution en avait été créée alors, l'eût laissé circuler sans lui faire exhiber son permis, malgré sa physionomie sinistre qui suait le crime. La tête, couverte d'un méchant mouchoir de coton à carreaux, en loques, était hérissée de mèches rebelles qui montraient des cheveux semblables à des poils de sanglier. Le cou rouge et ridé faisait horreur, et le fichu ne déguisait pas entièrement une peau tannée par le soleil, par la poussière et par la boue. La robe était comme une tapisserie. Les souliers grimaçaient à faire croire qu'il se moquait de la figure aussi trouée que la robe. Et quelle pièce d'estomac! Un emplâtre eût été moins sale. À 10 pas, cette guenille ambulante et fétide devait affecter l'odorat des gens délicats. Les mains avaient fait 100 moissons. Où cette femme revenait d'un sabbat allemand, où elle sortait d'un dépôt de mendicité. Mais quel regard, quelle audacieuse intelligence, quelle vie contenue, quand les rayons magnétiques de ses yeux et ceux de Jacques Collin se rejoignirent pour échanger une idée. « Range-toi donc, vieille hospice à vermine !» cria le postillon d'une voix rauque. « Ne vas-tu pas m'écraser, hussard de la guillotine ? » répondit-elle. « Ta marchandise ne vaut pas la mienne. » Et en essayant de se serrer entre deux bornes pour livrer passage, la marchande embarrassa la voie pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de son projet. « Oh, Asie !» se dit Jacques Collin, qui reconnut sur le champ sa complice. « Tout va bien. » Le postillon échangeait toujours des aménités avec Asie, et les voitures s'accumulaient dans la rue du Martroi. « Abbé, pécaï, refermati, sunila, vedrem !» s'écria la vieille Asie, avec ses intonations illinoises, particulières aux marchandes des rues, qui dénaturent si bien leurs paroles qu'elles deviennent des onomatopées, compréhensibles seulement pour les Parisiens. Dans le brouhaha de la rue, et au milieu des cris de tous les cochers survenus, personne ne pouvait faire attention à ce cri sauvage qui semblait être celui de la marchande. Mais cette clameur distincte pour Jacques Collin, lui jetait à l'oreille, dans un patois de convention mêlé d'italien et de provençal corrompu, cette phrase terrible. Ton pauvre petit est pris, mais je suis là pour veiller sur vous. Tu vas me revoir. Au milieu de la joie infinie que lui causait son triomphe sur la justice, car il espérait pouvoir entretenir des communications au dehors, Jacques Collin fut atteint par une réaction qui eût tué tout autre que lui. Lucien, arrêtez, se dit-il, et il faillit s'évanouir. Cette nouvelle était plus affreuse pour lui que le rejet de son pourvoi s'il eût été condamné à mort.
Maintenant que les deux paniers à salade roulent sur les quais, l'intérêt de cette histoire exige quelques mots sur la conciergerie pendant le temps qu'ils mettront à y venir. La conciergerie, nom historique, mot terrible, chose plus terrible encore, est mêlée aux révolutions de la France et à celle de Paris surtout. Elle a vu la plupart des grands criminels. Si de tous les monuments de Paris, c'est le plus intéressant, c'en est aussi le moins connu. Des gens qui appartiennent aux classes supérieures de la société. Mais malgré l'immense intérêt de cette digression historique, elle sera tout aussi rapide que la course des paniers à salade. Quel est le Parisien, l'étranger ou le provincial, pour peu qu'il soit resté 2 jours à Paris, qui n'ait remarqué les murailles noires, flanquées de 3 grosses tours à poivrières, dont 2 sont presque accouplées, ornements sombres et mystérieux du quai dit des Lunettes. Ce quai commence au bas du pont au Change et s'étend jusqu'au pont Neuf. Une tour carrée, dite la tour de l'horloge, où fut donné le signal de la Saint-Barthélemy, tour presque aussi élevée que celle de Saint-Jacques-la-Boucherie, indique le palais et forme le coin de ce quai. Ces 4 tours, ces murailles, sont revêtues de ce suaire noirâtre que prennent à Paris toutes les façades à exposition du Nord. Vers le milieu du quai, à une arcade déserte, commencent les constructions privées que l'établissement du Pont Neuf détermina sous le règne de Henri IV. La place royale fut la réplique de la place Dauphine. C'est le même système d'architecture, de la brique encadrée par des chaînes en pierre de taille. Cette arcade et la rue de Harlay indiquent les limites du palais à l'ouest. Autrefois, la préfecture de police, hôtel des premiers présidents au Parlement, dépendait du palais. La cour des comptes et la cour des aides y complétaient la justice suprême, celle du souverain. On voit qu'avant la Révolution, le palais jouissait de cet isolement qu'on cherche à créer aujourd'hui. Ce carré, cette île de maisons et de monuments, où se trouve la Sainte-Chapelle, le plus magnifique joyau de l'écrin de Saint-Louis, cet espace est le sanctuaire de Paris. C'en est la place sacrée, l'Arche Sainte. Et d'abord, cet espace fut la première cité tout entière, car l'emplacement de la place Dauphine était une prairie dépendante du domaine royal où se trouvait un moulin à frapper les monnaies. De là, le nom de rue de la Monnaie donné à celle qui mène au Pont Neuf. De là aussi, le nom d'une des 3 tours rondes, la seconde, qui s'appelle la Tour d'Argent et qui semblerait prouver qu'on y a primitivement battu monnaie. Le fameux moulin, qui se voit dans les anciens plans de Paris, serait vraisemblablement postérieur aux temps où l'on frappait la monnaie dans le palais même, et dû sans doute à un perfectionnement dans l'art monétaire. La première tour, presque accolée à la tour d'argent, se nomme la tour de Montgomery. La 3e, la plus petite, mais la mieux conservée des 3, car elle a gardé ses créneaux, a nom la tour Bombec. La Sainte-Chapelle et ses 4 tours, en comprenant la tour de l'horloge, déterminent parfaitement l'enceinte, le périmètre, dirait un employé du cadastre, du palais, depuis les Mérovingiens jusqu'à la première maison de Valois. Mais pour nous, et par suite de ces transformations, ce palais représente plus spécialement l'époque de Saint-Louis. Charles V, le premier, abandonna le palais au Parlement, institution nouvellement créée, et alla, sous la protection de la Bastille, habiter le fameux hôtel Saint-Paul. auquel on adossa plus tard le palais des Tournelles. Puis sous les derniers Valois, la royauté revint de la Bastille au Louvre, qui avait été sa première Bastille. La première demeure des rois de France, le palais de Saint-Louis, qui a gardé ce nom de palais tout court pour signifier le palais par excellence, et tout entier enfoui sous le palais de justice. Il en forme les caves, car il était bâti dans la Seine, comme la cathédrale, et bâti si soigneusement que les plus hautes eaux de la rivière en couvrent à peine les premières marches. Le quai de l'horloge, en terre d'environ 20 pieds, ses constructions 10 fois séculaires. Les voitures roulent à la hauteur du chapiteau des fortes colonnes de ces trois tours, dont jadis l'élévation devait être en harmonie avec l'élégance du palais et d'un effet pittoresque sur l'eau, puisqu'aujourd'hui ces tours le disputent encore en hauteur aux monuments les plus élevés de Paris. Quand on contemple cette vaste capitale, du haut de la lanterne du Panthéon, le palais avec la Sainte-Chapelle est encore ce qui paraît le plus monumental parmi tant de monuments. Ce palais de nos rois, sur lequel vous marchez quand vous arpentez l'immense salle des Pas Perdus, était une merveille d'architecture. Il l'est encore, aux yeux intelligents du poète qui vient l'étudier en examinant la conciergerie. Hélas, la conciergerie a envahi le palais des rois. Le cœur saigne à voir comment on a taillé des geôles, des réduits, des corridors, des logements, des salles sans jour ni air, dans cette magnifique composition où le byzantin, le roman, le gothique, ces trois faces de l'art ancien, ont été raccordées par l'architecture du XIIe siècle. Ce palais est à l'histoire monumentale de la France des premiers temps, ce que le château de Blois est à l'histoire monumentale des seconds temps. De même qu'à Blois, dans une cour, vous pouvez admirer le château des comtes de Blois, celui de Louis XII, celui de François Ier, celui de Gaston. De même, à la conciergerie, vous retrouvez, dans la même enceinte, le caractère des premières races, et dans la Sainte-Chapelle, l'architecture de Saint-Louis. Conseil municipal, si vous donnez des millions, mettez aux côtés des architectes un ou deux poètes, si vous voulez sauver le berceau de Paris, le berceau des rois, en vous occupant de doter Paris et la cour souveraine d'un palais digne de la France. C'est une question à étudier pendant quelques années avant de rien commencer. Encore une ou deux prisons de bâti, comme celle de la Roquette, et le palais de Saint-Louis sera sauvé. Aujourd'hui, bien des plaies affectent ce gigantesque monument, enfoui sous le palais et sous le quai, comme un de ces animaux antédiluviens dans les plâtres de Montmartre. Mais la plus grande, c'est d'être la conciergerie. Ce mot, on le comprend. Dans les premiers temps de la monarchie, les grands coupables, car les vilains, il faut tenir à cette orthographe qui laisse au mot sa signification de paysan. Et les bourgeois appartenaient à des juridictions urbaines ou seigneuriales. Les possesseurs des grands ou petits fiefs étaient amenés au roi et gardés à la conciergerie. Comme on saisissait peu de ces grands coupables, la conciergerie suffisait à la justice du roi. Il est difficile de savoir précisément l'emplacement de la primitive conciergerie. Néanmoins, comme les cuisines de Saint-Louis existent encore et forment aujourd'hui ce qu'on nomme la souricière, il est à présumer que la conciergerie primitive devait être située là où se trouvait, avec 1825, la conciergerie judiciaire du Parlement, sous l'arcade, à droite du grand escalier extérieur qui mène à la cour royale. De là, jusqu'en 1825, partirent les condamnés pour aller subir leur supplice. De là, sortirent tous les grands criminels, toutes les victimes de la politique, la maréchale d'Ancre comme la reine de France, Semblançay comme Malesherbes, Damiens comme Danton, Desrues comme Castin, le cabinet de Fouquier-Tinville, le même que celui actuel du procureur du roi, se trouvaient placés de manière à ce que l'accusateur public pût voir défiler dans leur charrette les gens que le tribunal révolutionnaire venait de condamner. Cet homme fait glaive pouvait ainsi donner un dernier coup d'œil à ses fournées. Depuis 1825, sous le ministère de M. de Perronnet, un grand changement eut lieu dans le palais. Le vieux guichet de la conciergerie, où se passaient les cérémonies de l'écrou et de la toilette, fut fermé et transporté où il se trouve aujourd'hui, entre la tour de l'horloge et la tour Montgomery, dans une cour intérieure indiquée par une arcade. À gauche se trouve la souricière, à droite le guichet. Les paniers à salade entrent dans cette cour assez irrégulière et peuvent y rester, y tourner avec facilité, s'y trouver en cas d'émeute, protégés contre une tentative par la forte grille de l'arcade. Tandis qu'autrefois, ils n'avaient pas la moindre facilité pour manœuvrer dans l'étroit espace qui sépare le grand escalier extérieur de l'aile droite du palais. Aujourd'hui, la conciergerie à peine suffisante pour les accusés, il y faudrait de la place pour 300 personnes, hommes et femmes, ne reçoit plus ni prévenus ni détenus, excepté dans de rares occasions, comme celle qui y faisait amener Jacques Collin et Lucien. Tous ceux qui y sont prisonniers doivent comparaître en cour d'assises. Par exception, la magistrature y souffre les coupables de la haute société, qui, déjà suffisamment déshonorée par un arrêt de cour d'assises, seraient punis au-delà des bornes s'ils subissaient leur peine à Melun ou à Poissy. Ouvrard préféra le séjour de la conciergerie à celui de Sainte-Pélagie. En ce moment, le notaire Lehon, le prince de Berg, y font leur temps de détention par une tolérance arbitraire, mais pleine d'humanité. Généralement, les prévenus, soit pour aller en argot du palais à l'instruction, soit pour comparaître en police correctionnelle, sont versés par les paniers à salade directement à la souricière. La souricière, qui fait face au guichet, se compose d'une certaine quantité de cellules pratiquées dans les cuisines de Saint-Louis, et où les prévenus, extraits de leur prison, attendent l'heure de la séance du tribunal ou l'arrivée de leur juge d'instruction. La souricière est bornée au nord par le quai, à l'est par le corps de garde de la garde municipale, à l'ouest par la cour de la conciergerie et au midi par une immense salle voûtée, sans doute l'ancienne salle des festins, encore sans destination. Au-dessus de la souricière s'étend un corps de garde intérieur ayant vu par une croisée sur la cour de la conciergerie. Il est occupé par la gendarmerie départementale et l'escalier y aboutit. Quand l'heure du jugement sonne, les huissiers viennent faire l'appel des prévenus. Les gendarmes descendent en nombre égal à celui des prévenus. Chaque gendarme prend un prévenu sous le bras. Et ainsi accouplés, ils gravissent l'escalier, traversent le corps de garde et arrivent par des couloirs dans une pièce contiguë à la salle où siège la fameuse sixième chambre du tribunal, à laquelle est dévolue l'audience de la police correctionnelle. Ce chemin est celui que prennent aussi les accusés pour aller de la conciergerie à la cour d'assises et pour en revenir. Dans la salle des pas perdus, entre la porte de la première chambre du tribunal de première instance et le perron qui mène à la sixième, on remarque immédiatement, en s'y promenant pour la première fois, une entrée sans porte, sans aucune décoration d'architecture. Un trou carré vraiment ignoble. C'est par là que les juges, les avocats, pénètrent dans ces couloirs, dans le corps de garde, descendent à la souricière et au guichet de la conciergerie. Tous les cabinets des juges d'instruction sont situés à différents étages dans cette partie du palais. On y parvient par d'affreux escaliers, un dédale, où se perdent presque toujours ceux à qui le palais est inconnu. Les fenêtres de ces cabinets donnent les unes sur le quai, les autres sur la cour de la conciergerie. En 1830, quelques cabinets de juges d'instruction avaient vu sur la rue de la Barillerie. Ainsi, quand un panier à salade tourne à gauche dans la cour de la conciergerie, il amène des prévenus à la souricière. Quand il tourne à droite, il importe des accusés à la conciergerie. Ce fut donc de ce côté que le panier à salade où se trouvait Jacques Collin fut dirigé pour le déposer au guichet. Rien de plus formidable. Criminels ou visiteurs aperçoivent deux grilles en fer forgé, séparées par un espace d'environ 6 pieds, qui s'ouvrent toujours l'une après l'autre, et à travers lesquelles tout est observé si scrupuleusement que les gens à qui le permis de visiter est accordé passent cette pièce à travers la grille avant que la clé ne grince dans la serrure. Les magistrats instructeurs, ceux du parquet eux-mêmes, n'entrent pas sans avoir été reconnus. Aussi, parler de la possibilité de communiquer ou de s'évader. Le directeur de la conciergerie aura sur les lèvres un sourire qui glacera le doute chez le romancier le plus téméraire dans ses entreprises contre la vraisemblance. On ne connaît, dans les annales de la conciergerie, que l'évasion de la Valette, mais la certitude d'une auguste connivence, aujourd'hui prouvée, a diminué, sinon le dévouement de l'épouse, du moins le danger d'un insuccès. En jugeant sur les lieux de la nature des obstacles, les gens les plus amis du merveilleux reconnaîtront qu'en tout temps, ces obstacles étaient ce qu'ils sont encore, invincibles. Aucune expression ne peut dépeindre la force des murailles et des voûtes. Il faut les voir. Quoique le pavé de la cour soit en contrebas de celui du quai, lorsque vous franchissez le guichet, il faut encore descendre plusieurs marches pour arriver dans une immense salle voûtée dont les puissantes murailles sont ornées de colonnes magnifiques et sont flanquées de la tour Montgomery, qui fait partie aujourd'hui du logement du directeur de la conciergerie, et de la tour d'argent, qui sert de dortoir aux surveillants, guichetiers ou porte-clés, comme il vous plaira de les appeler. Le nombre de ces employés n'est pas aussi considérable qu'on peut l'imaginer. Ils sont 20. Leur dortoir, de même que leur coucher, ne diffère pas de celui de la pistole. Ce nom vient sans doute de ce que jadis les prisonniers donnaient une pistole par semaine pour ce logement, dont la nudité rappelle les froides mansardes que les grands hommes sans fortune commencent par habiter à Paris. À gauche, dans cette vaste salle d'entrée, se trouve le greffe de la conciergerie, espèce de bureau formé par des vitrages où siègent le directeur et son greffier, où sont les registres d'écrou. Là, le prévenu, l'accusé, sont inscrits, décrits et fouillés. Là se décide la question du logement, dont la solution dépend de la bourse du patient. En face du guichet de cette salle, on aperçoit une porte vitrée, celle d'un parloir où les parents et les avocats communiquent avec les accusés par un guichet à double grille en bois. Ce parloir tire son jour du préau, le lieu de promenade intérieure où les accusés respirent au grand air et font de l'exercice à des heures déterminées. Cette grande salle, éclairée par le jour douteux de ces deux guichets, car l'unique croisée donnant sur la cour d'arrivée est entièrement prise par le greffe qui l'encadre, présente au regard une atmosphère et une lumière parfaitement en harmonie avec les images préconçues par l'imagination. C'est d'autant plus effrayant que parallèlement aux tours d'argent et de Montgomery, vous apercevez ces cryptes mystérieuses, voûtées, formidables, sans lumière, qui tournent autour du parloir, qui mènent au cachot de la reine, de Madame Élisabeth, et aux cellules appelées les secrets. Ce dédale en pierre de taille est devenu le souterrain du palais de justice, après avoir vu les fêtes de la royauté. De 1825 à 1832, ce fut dans cette immense salle, entre un gros poêle qui la chauffe et la première des deux grilles, que se faisait l'opération de la toilette. On ne passe pas encore sans frémir sur ces dalles qui ont reçu le choc et les confidences de tant de derniers regards. Pour sortir de son affreuse voiture, le moribond eut besoin de l'assistance de deux gendarmes qui le prirent chacun sous un bras, le soutinrent et le portèrent comme évanoui dans le greffe. Ainsi traîné, le mourant levait les yeux au ciel de manière à ressembler au sauveur descendu de la croix. Certes, dans aucun tableau, Jésus n'offre une face plus cadavérique, plus décomposée que ne l'était celle du faux espagnol. Il semblait près de rendre le dernier soupir. Quand il fut assis dans le greffe, il répéta d'une voix défaillante les paroles qu'il adressait à tout le monde depuis son arrestation. « Je me réclame de son Excellence l'ambassadeur d'Espagne. « Vous direz cela, répondit le directeur, à monsieur le juge d'instruction. « Ah, Jésus, répliqua Jacques Collin en soupirant, ne puis-je avoir un bréviaire? Me refusera-t-on toujours un médecin? Je n'ai pas 2 heures à vivre. » Carlos Herrera devant être mis au secret, il fut inutile de lui demander s'il réclamait les bénéfices de la pistole, c'est-à-dire le droit d'habiter une de ses chambres, où l'on jouit du seul confort permis par la justice. Ces chambres sont situées au bout du préau, dont il sera question plus tard. L'huissier et le greffier remplirent de concert et flegmatiquement les formalités de l'écrou. « Monsieur le directeur, dit Jacques Collin en baragouinant le français, je suis mourant, vous le voyez. Dites si vous le pouvez, dites surtout, le plus tôt possible, à ce monsieur juge, que je sollicite comme une faveur ce qu'un criminel devrait le plus redouter, de paraître devant lui dès qu'il sera venu, car mes souffrances sont vraiment intolérables, et dès que je le verrai, toute erreur cessera. » Règle générale, les criminels parlent tous d'erreur. Allez dans les bagnes, questionnez-y les condamnés, ils sont presque tous victimes d'une erreur de la justice. Aussi, ce mot fait-il sourire imperceptiblement tous ceux qui sont en contact avec des prévenus, des accusés ou des condamnés. Je puis parler de votre réclamation au juge d'instruction, reprit le directeur. Je vous bénirai donc, monsieur, répliqua l'Espagnol en levant les yeux au ciel. Aussitôt écroué, Carlos Herrera, pris sous chaque bras par 2 gardes municipaux accompagnés d'un surveillant, à qui le directeur désigna celui des secrets où devait être renfermé le prévenu, fut conduit par le dédale souterrain de la conciergerie dans une chambre très saine, quoi qu'en aient dit certains philanthropes, mais sans communication possible. Quand il eut disparu, les surveillants, le directeur de la prison, son greffier, l'huissier lui-même, les gendarmes, se regardèrent en gens qui se demandent les uns aux autres leur opinion. Et sur toutes les figures se peignit le doute. Mais à l'aspect de l'autre prévenu, tous les spectateurs revinrent à leur incertitude habituelle, cachés sous un air d'indifférence. À moins de circonstances extraordinaires, les employés de la conciergerie sont peu curieux, les criminels étant pour eux ce que les pratiques sont pour les coiffeurs. Ainsi, toutes les formalités dont l'imagination s'épouvante s'accomplissent-elles plus simplement que des affaires d'argent chez un banquier, et souvent avec plus de politesse. Lucien présenta le masque du coupable abattu, car il se laissait faire, il s'abandonnait en machine. Depuis Fontainebleau, le poète contemplait sa ruine, et il se disait que l'heure des expiations avait sonné. Pâle, défait, ignorant tout ce qui s'était passé pendant son absence chez Esther, il se savait le compagnon intime d'un forçat évadé. Situation qui suffisait à lui faire apercevoir des catastrophes pires que la mort. Quand sa pensée enfantait un projet, c'était le suicide. Il voulait échapper à tout prix aux ignominies qu'il entrevoyait comme les fantaisies d'un rêve pénible. Jacques Collin fut placé, comme le plus dangereux des 2 prévenus, dans un cabanon tout en pierre de taille, qui tire son jour d'une de ces petites cours intérieures, comme il s'en trouve dans l'enceinte du palais, où le procureur général a son cabinet. Cette petite cour sert de préau au quartier des femmes. Lucien fut mené par le même chemin, car selon les ordres donnés par le juge d'instruction, le directeur eut des égards pour lui, dans un cabanon contigu aux pistoles. Généralement, les personnes qui n'auront jamais de démêlés avec la justice conçoivent les idées les plus noires sur la mise au secret. L'idée de justice criminelle ne se sépare point des vieilles idées sur la torture ancienne, sur l'insalubrité des prisons, sur la froideur des murailles de pierre d'où suinent des larmes, sur la grossièreté des geôliers et de la nourriture, accessoires obligés des drames. Mais il n'est pas inutile de dire ici que ces exagérations n'existent qu'au théâtre, et font sourire les magistrats, les avocats et ceux qui, par curiosité, visitent les prisons ou qui viennent les observer. Pendant longtemps, ce fut terrible. Il est certain que les accusés étaient, sous l'ancien Parlement, dans les siècles de Louis XIII et de Louis XIV, jetés pêle-mêle dans une espèce d'entresol au-dessus de l'ancien guichet. Les prisons ont été l'un des crimes de la Révolution de 1789. Et il suffit de voir le cachot de la reine et celui de Madame Élisabeth pour concevoir une horreur profonde des anciennes formes judiciaires. Mais aujourd'hui, si la philanthropie a fait à la société des maux incalculables, elle a produit un peu de bien pour les individus. Nous devons à Napoléon notre code criminel, qui plus que le code civil, dont la réforme est en quelques points urgente, sera l'un des plus grands monuments de ce règne si court. Ce nouveau droit criminel ferma tout un abîme de souffrance. Aussi peut-on affirmer qu'en mettant à part les affreuses tortures morales auxquelles les gens des classes supérieures sont en proie en se trouvant sous la main de la justice, l'action de ce pouvoir est d'une douceur et d'une simplicité, d'autant plus grandes qu'elles sont inattendues. L'inculpé et le prévenu ne sont certainement pas logés comme chez eux. Mais le nécessaire se trouve dans les prisons de Paris. D'ailleurs, la pesanteur des sentiments auxquels on se livre ôte aux accessoires de la vie leur signification habituelle. Ce n'est jamais le corps qui souffre. L'esprit est dans un état si violent que toute espèce de malaise, de brutalité, s'il s'en rencontrait dans le milieu où l'on est, se supporterait aisément. Il faut admettre, à Paris surtout, que l'innocent est promptement mis en liberté. Lucien, en entrant dans sa cellule, trouva donc la fidèle image de la première chambre qu'il avait occupée à Paris, à l'hôtel Cluny. Un lit semblable à ceux des plus pauvres hôtels garnis du quartier latin, des chaises foncées de paille, une table et quelques ustensiles composaient le mobilier de l'une de ces chambres, où souvent on réunit deux accusés quand leurs mœurs sont douces et leurs crimes d'une catégorie rassurante, comme les fausses et les banqueroutes. Cette ressemblance entre son point de départ, plein d'innocence, et le point d'arrivée, dernier degré de la honte et de l'avilissement, fut si bien saisie par un dernier effort de sa fibre poétique que l'infortuné fondit en larmes. Il pleura pendant quelques heures, insensible en apparence, comme une figure de pierre, mais souffrant de toutes ses espérances renversées, atteint dans toutes ses vanités sociales écrasées, dans son orgueil anéanti, dans tous les mois que présentent l'ambitieux, l'amoureux, l'heureux, le dandy, le parisien, le poète, le voluptueux et le privilégié. Tout en lui s'était brisé dans cette chute icarienne. Carlos Herrera, lui, tourna dans son cabanon dès qu'il y fut seul, comme l'ours blanc du jardin des plantes dans sa cage. Il vérifia minutieusement la porte et s'assura que le Judas excepté, nul trou n'y avait été pratiqué. Il sonda tous les murs, regarda la hotte, par la gueule de laquelle venait une faible lumière, et il se dit « Je suis en sûreté ». Il alla s'asseoir dans un coin où l'œil d'un surveillant, appliqué au Judas à grillage, n'aurait pu le voir. Puis il ôta sa perruque et y décolla promptement un papier qui en garnissait le fond. Le côté de ce papier, en communication avec la tête, était si crasseux qu'il semblait être le tégument de la perruque. Si Bibi Lupin avait eu l'idée d'enlever cette perruque pour reconnaître l'identité de l'Espagnol avec Jacques Collin, il ne se serait pas défié de ce papier, tant cela paraissait faire partie de l'œuvre du perruquier. L'autre côté du papier était encore assez blanc et assez propre pour recevoir quelques lignes. L'opération difficile et minutieuse du décollage avait été commencée à la force. 2 heures n'y auraient pas suffi. La moitié de la journée y avait été employée la veille. Le prévenu commença par rogner ce précieux papier de manière à s'en procurer une bande de 4 à 5 lignes de largeur. Il la partagea en plusieurs morceaux. Puis il remit dans ce singulier magasin sa provision de papier, après en avoir humecté la couche de gomme arabique à l'aide de laquelle il pouvait en rétablir l'adhérence. Il chercha dans une mèche de cheveux un de ses crayons fins comme des tiges d'épingle, dont la fabrication due à Sus était récente, et qui s'y trouvait fixée par de la colle. Il en prit un fragment, assez long pour écrire, et assez petit pour tenir dans son oreille. Ces préparatifs terminaient avec la rapidité, la sécurité d'exécution particulière aux vieux forçats, qui sont adroits comme des singes. Jacques Collin s'assit sur le bord de son lit et se mit à méditer ses instructions pour Asie, avec la certitude de la trouver sur son chemin, tant il comptait sur le génie de cette femme. « Dans mon interrogatoire sommaire, se disait-il, j'ai fait l'espagnol parlant mal le français, se réclamant de son ambassadeur, alléguant les privilèges diplomatiques et ne comprenant rien à ce qu'on lui demandait. Tout cela, bien scandé par des faiblesses, par des points d'orgue, des soupirs, enfin, toutes les balançoires d'un mourant. Restons sur ce terrain. Mes papiers sont en règle. Asie et moi, nous mangerons bien Monsieur Camusot, il n'est pas fort. Pensons donc à Lucien. Il s'agit de lui refaire le moral. Il faut arriver à cet enfant à tout prix, lui tracer un plan de conduite. Autrement, il va se livrer, me livrer et tout perdre. Avant son interrogatoire, il doit avoir été seriné. Puis il me faut des témoins qui maintiennent mon état de prêtre. Telle était la situation morale et physique des deux prévenus, dont le sort dépendait en ce moment de Monsieur Camusot, juge d'instruction au tribunal de première instance de la Seine, souverain arbitre, pendant le temps que lui donnait le code criminel, des plus petits détails de leur existence. Car lui seul pouvait permettre que l'aumônier, le médecin de la conciergerie, ou qui que ce soit, communiquât avec eux. Aucune puissance humaine, ni le roi, ni le garde des Sceaux, ni le premier ministre, ne peuvent empiéter sur le pouvoir d'un juge d'instruction. Rien ne l'arrête, rien ne lui commande. C'est un souverain, soumis uniquement à sa conscience et à la loi. En ce moment où les philosophes, philanthropes et publicistes sont incessamment occupés à diminuer tous les pouvoirs sociaux, le droit conféré par nos lois aux juges d'instruction est devenu l'objet d'attaques d'autant plus terribles qu'elles sont presque justifiées par ce droit qui, disons-le, est exorbitant. Néanmoins, pour tout homme sensé, ce pouvoir doit rester sans atteinte. On peut, dans certains cas, en adoucir l'exercice par un large emploi de la caution. Mais la société, déjà bien ébranlée par l'inintelligence et par la faiblesse du jury, magistrature auguste et suprême, qui ne devrait être confiée qu'à des notabilités élues, serait menacée de ruine si l'on brisait cette colonne qui soutient tout notre droit criminel. L'arrestation préventive est une de ces facultés terribles, nécessaires, dont le danger social est contrebalancé par sa grandeur même. D'ailleurs, se défier de la magistrature est un commencement de dissolution sociale. Détruisez l'institution, reconstruisez-la sur d'autres bases, demandez, comme avant la Révolution, d'immenses garanties de fortune à la magistrature. Mais croyez-y, n'en faites pas l'image de la société pour y insulter. Aujourd'hui, le magistrat, payé comme un fonctionnaire, pauvre pour la plupart du temps, a troqué sa dignité d'autrefois contre une morgue qui semble intolérable à tous les égaux qu'on lui a faits. Car la morgue est une dignité qui n'a pas de point d'appui. Là gît le vice de l'institution actuelle. Si la France était divisée en 10 ressorts, on pourrait relever la magistrature en exigeant d'elle de grandes fortunes, ce qui devient impossible avec 26 ressorts. La seule amélioration réelle à réclamer dans l'exercice du pouvoir confié au juge d'instruction, c'est la réhabilitation de la maison d'arrêt. L'état de prévention devrait n'apporter aucun changement dans les habitudes des individus. Les maisons d'arrêt devraient, à Paris, être construites, meublées et disposées de manière à modifier profondément les idées du public sur la situation des prévenus. La loi est bonne, elle est nécessaire. L'exécution en est mauvaise, et les mœurs jugent les lois d'après la manière dont elles s'exécutent. L'opinion publique en France
condamne les prévenus et réhabilite les accusés par une inexplicable contradiction.
Peut-être est-ce le résultat de l'esprit essentiellement frondeur du français. Cette inconséquence du public parisien fut un des motifs qui contribuèrent à la catastrophe de ce drame. Ce fut même, comme on le verra, l'un des plus puissants.
Pour être dans le secret des scènes terribles qui se jouent dans le cabinet d'un juge d'instruction, pour bien connaître la situation respective des deux parties belligérantes, les prévenus et la justice, dont la lutte a pour objet le secret gardé par ceux-ci contre la curiosité du juge, si bien nommé le curieux dans l'argot des prisons, on ne doit jamais oublier que le prévenu mis au secret ignore tout de ce que disent les 7 à 8 publics qui forment le public, tout ce que savent la police, la justice et le peu que les journaux publient des circonstances du crime. Aussi, donner à des prévenus un avis, comme celui de Jacques Collin venait de recevoir par Asie sur l'arrestation de Lucien, est-ce jeter une corde à un homme qui se noie ? On va voir échouer par cette raison une tentative qui, certes, sans cette communication, eût perdu le forçat. Ces termes, une fois bien posés,
les gens les moins faciles à s'émouvoir
vont être effrayés de ce que produisent ces 3 causes de terreur : la séquestration, le silence et le remords. Monsieur Camusot, gendre d'un des huissiers du cabinet du roi, trop connu déjà pour expliquer ses alliances et sa position, se trouvait en ce moment dans une perplexité presque égale à celle de Carlos Herrera, relativement à l'instruction qui lui était confiée. Naguère, président d'un tribunal du ressort, il avait été tiré de cette position et appelé juge à Paris, l'une des places les plus enviées en magistrature, par la protection de la célèbre duchesse de Maufrigneuse, dont le mari, Menin du Dauphin, et colonel d'un des régiments de cavalerie de la garde royale, était autant en faveur auprès du roi qu'elle l'était auprès de madame. Pour un très léger service rendu, mais capital pour la duchesse, lors de la plainte en faux portée contre le jeune comte d'Esgrignon par un banquier d'Alençon, de simple juge en province, il avait passé président, et de président, juge d'instruction à Paris. Depuis 18 mois qu'il siégeait dans le tribunal le plus important du royaume, il avait déjà pu, sur la recommandation de la duchesse de Maufrigneuse, se prêter aux vues d'une grande dame non moins puissante, la marquise d'Espard. Mais il avait échoué. Lucien, comme on l'a dit au début de cette scène, pour se venger de madame d'Espard, qui voulait faire interdire son mari, put rétablir la vérité des faits aux yeux du procureur général et du comte de Sérisy. Ces deux hautes puissances, une fois réunies aux amis du marquis d'Espard, la femme n'avait échappé que par la clémence de son mari au blâme du tribunal. La veille, en apprenant l'arrestation de Lucien, la marquise d'Espard avait envoyé son beau-frère, le chevalier d'Espard, chez madame Camusot. Madame Camusot était allée un continent faire une visite à l'illustre marquise. Au moment du dîner, de retour chez elle, elle avait pris à part son mari dans la chambre à coucher. « Si tu peux envoyer ce petit fat de Lucien de Rubempré en cour d'assises et qu'on obtienne une condamnation contre lui, lui dit-elle à l'oreille, tu seras conseillé à la cour royale. » « Et comment ? » Madame d'Espard voudrait voir tomber la tête de ce pauvre jeune homme. J'ai eu froid dans le dos en écoutant parler une haine de jolie femme. « Ne te mêle pas des affaires du palais, » répondit Camusot à sa femme. « Moi m'en mêler ? » reprit-elle. « Un tiers aurait pu nous entendre. Il n'aurait pas su ce dont il s'agissait. La marquise et moi, nous avons été l'une et l'autre aussi délicieusement hypocrites que tu l'es avec moi dans ce moment. Elle voulait me remercier de tes bons offices dans son affaire, en me disant que malgré l'insuccès, elle en était reconnaissante. Elle m'a parlé de la terrible mission que la loi vous donne. C'est affreux d'avoir à envoyer un homme à l'échafaud. Mais celui-là, c'est faire justice, etc. Elle a déploré qu'un si beau jeune homme, amené par sa cousine, madame du Châtelet, à Paris, eût si mal tourné. C'est là, disait-elle, où les mauvaises femmes, comme une Coralie, une Esther, mènent les jeunes gens assez corrompus pour partager avec elles l'ignoble profit. Enfin, de belles tirades sur la charité, sur la religion. Madame du Châtelet lui avait dit que Lucien méritait 1000 morts pour avoir failli tuer sa sœur et sa mère. Elle a parlé d'une vacance à la cour royale. Elle connaissait le garde des Sceaux. Votre mari, madame, a une belle occasion de se distinguer, a-t-elle dit en finissant. Et voilà, nous nous distinguons tous les jours, en faisant notre devoir, dit Camusot. Tu iras loin, si tu es magistrat partout, même avec ta femme, s'écria madame Camusot. Tiens, je t'ai cru niais. Aujourd'hui, je t'admire. Le magistrat eut sur les lèvres un de ces sourires qui n'appartiennent qu'à eux, comme celui des danseuses n'est qu'à elles. Madame, puis-je entrer ? Demanda la femme de chambre. Que me voulez-vous ? Lui dit sa maîtresse. Madame, la première femme de madame la duchesse de Maufrigneuse est venue ici pendant l'absence de madame et prie madame de la part de sa maîtresse de venir à l'hôtel de Cadignan, toute affaire cessante. Qu'on retarde le dîner, dit la femme du juge, en pensant que le cocher du fiacre qui l'avait amenée attendait son paiement. Elle remit son chapeau, remonta dans le fiacre et fut dans 20 minutes à l'hôtel de Cadignan. Madame Camusot, introduite par les petites entrées, resta pendant 10 minutes seule dans un boudoir attenant à la chambre à coucher de la duchesse, qui se montra resplendissante, car elle partait à Saint-Cloud, où l'appelait une invitation à la cour. Ma petite, entre nous, 2 mots suffisent. Oui, madame la duchesse. Lucien de Rubempré est arrêté. Votre mari instruit l'affaire. Je garantis l'innocence de ce pauvre enfant. Qu'il soit libre avant 24 heures. Ce n'est pas tout. Quelqu'un veut voir Lucien demain secrètement dans sa prison. Votre mari pourra, s'il le veut, être présent, pourvu qu'il ne se laisse pas apercevoir. Je suis fidèle à ceux qui me servent, vous le savez. Le roi espère beaucoup du courage de ses magistrats dans les circonstances graves où il va se retrouver bientôt. Je mettrai votre mari en avant. Je le recommanderai comme un homme dévoué au roi, fallût-il risquer sa tête. Notre Camusot sera d'abord conseiller, puis premier président, n'importe où. Adieu. Je suis attendu, vous m'excuserez, n'est-ce pas? Vous n'obligez pas seulement le procureur général, qui dans cette affaire ne peut pas se prononcer. Vous sauvez encore la vie à une femme qui se meurt, à madame de Sérisy. Ainsi, vous ne manquerez pas d'appui. Allons, vous voyez ma confiance, je n'ai pas besoin de vous recommander. Vous savez. Elle se mit un doigt sur les lèvres et disparut. Et moi qui n'ai pas pu lui dire que la marquise d'Espard veut voir Lucien sur l'échafaud, pensait la femme du magistrat en regagnant son fiacre. Elle arriva dans une telle anxiété qu'en la voyant, le juge lui dit « Amélie, qu'as-tu ? Nous sommes prises entre 2 feux. » Elle raconte son entrevue avec la duchesse en parlant à l'oreille de son mari, tant elle craignait que sa femme de chambre n'écoutât à la porte. « Laquelle des deux est la plus puissante ? » dit-elle en terminant. « La marquise a failli te compromettre dans la sotte affaire de la demande en interdiction de son mari, tandis que nous devons tout à la duchesse. L'une m'a fait des promesses vagues, tandis que l'autre m'a dit « Vous serez conseiller d'abord, premier président ensuite. » Dieu me garde de te donner un conseil. Je ne me mêlerai jamais des affaires du palais. Mais je dois te rapporter fidèlement ce qui se dit à la cour et ce qu'on y prépare. Tu ne sais pas, Amélie, ce que le préfet de police m'a envoyé ce matin. Et par qui ? Par un des hommes les plus importants de la police générale du royaume, le Bibi Lupin de la politique, qui m'a dit que l'État avait des intérêts secrets dans ce procès. Dînons, et allons aux variétés. Nous causerons cette nuit, dans le silence du cabinet, de tout ceci. Car j'aurai besoin de ton intelligence. Celle du juge ne suffit peut-être pas. Les 9/10 des magistrats nieront l'influence de la femme sur le mari en semblable occurrence. Mais si c'est là l'une des plus fortes exceptions sociales, on peut faire observer qu'elle est vraie, quoique accidentelle. Le magistrat est comme le prêtre, à Paris surtout, où se trouve l'élite de la magistrature. Il parle rarement des affaires du palais, à moins qu'elles ne soient à l'état de choses jugées. Les femmes de magistrats non seulement affectent de ne jamais rien savoir, mais encore, elles ont toutes assez le sentiment des convenances pour deviner qu'elles nuiraient à leur mari, si quand elles sont instruites de quelque secret, elles le laissaient voir. Néanmoins, dans les grandes occasions où il s'agit d'avancement d'après tel ou tel parti pris, beaucoup de femmes ont assisté, comme Amélie, à la délibération du magistrat. Enfin, ces exceptions, d'autant plus niables qu'elles sont toujours inconnues, dépendent entièrement de la manière dont la lutte entre deux caractères s'est accomplie au sein d'un ménage. Or, Madame Camusot dominait entièrement son mari. Quand tout dormit chez eux, le magistrat et sa femme s'assirent au bureau sur lequel le juge avait déjà classé les pièces de l'affaire. Voici les notes que le préfet de police m'a fait remettre, sur ma demande d'ailleurs, dit Camusot.